c'est le journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les cheminots tentent une nouvelle fois de mettre la pression sur le gouvernement. Cette journée de grève à la SNCF, les syndicats ont organisé des rassemblements devant les préfectures pour montrer qu'ils ne faiblissaient pas. Normalsup, occupé par des opposants à la loi sur l'université, des occupants ont passé toute la nuit dans l'établissement et des dégâts ont été commis. En plein rapprochement entre les deux Corées, une journaliste de Radio France a pu partager pendant quelques jours la vie des Nord-Coréens. Élise Delève nous dira combien le dirigeant Kim Jong-un est omniprésent dans leur quotidien. Et à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous verrons pourquoi le photojournalisme attire autant malgré une précarité croissante. La grève des cheminots contre la réforme du secteur ferroviaire a déjà coûté près de 250 millions d'euros à la SNCF. C'est ce que déclarait ce matin le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Et cet après-midi, la ministre des Transports souligne combien le mouvement compromet l'activité de plusieurs secteurs de l'industrie. Elisabeth Borne cite la sidérurgie, l'agroalimentaire et les matériaux. Et d'après elle, la grève fait courir le risque de voir de nombreux acteurs se détourner durablement du fret ferroviaire. Des arguments qui laissent les syndicats de marbre. Ils ont appelé aujourd'hui à des rassemblements devant les préfectures pour montrer que le mouvement ne s'essoufflait pas et pour arriver en position de force lundi prochain quand les fédérations représentatives seront reçues à Matignon. Hakim Kasmi, vous avez rencontré des cheminots mobilisés à Paris.
Et oui Aurélie, avec la baisse des grévistes, notamment chez les conducteurs, il était très important de regalvaniser les troupes avant la rencontre lundi entre les syndicats et Édouard Philippe à Matignon. Ce qui n'inquiète pas pour autant Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
C'est normal que les gens aient besoin de souffler un petit peu et que derrière ça, je pense que beaucoup attendent de voir ce qui va se passer le 7, soit pour réamorcer une mobilisation, soit pour lever le pied en disant ben, on passe dans la période de négociation et on verra ce qu'il en sort. De toute manière, on est dans un marathon, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans un 100 mètres. Hein.
Un marathon qui a commencé il y a tout juste un mois et qui doit encore se poursuivre jusqu'à la fin juin, ce qui pèse sur les finances des grévistes, notamment les non-cadres qui perdent entre 300 et 400 euros par mois. Mais pas question d'abandonner pour Anne, en charge de l'information voyageur à la Gare de l'Est.
Ça devient dur de perdre du salaire, mais après on a des convictions et c'est notre avenir qu'on défend.
Un avenir qui s'inscrit en pointillé pour Dominique en charge du test des trains. Avec l'ouverture à la concurrence, il craint de perdre son emploi. Et ce, même si la réforme prévoit qu'en cas de la perte d'un appel d'offres avec l'ouverture à la concurrence, eh bien, les salariés concernés seront transférés en gardant leur statut chez leurs opérateurs. C'est le fameux sac à dos social.
Au niveau du matériel, on sait ce qu'on faisait. Et désormais, c'est un saut dans l'inconnu. Parce que le matériel ne sera pas plus forcément entretenu par des cheminots. Je serai au chômage. Au niveau de fret, c'est comme ça. Au niveau des gares, c'est comme ça. Au niveau de la vente de billets, c'est comme ça. Reclasser quelques personnes, c'est possible. Mais actuellement, tous les services sont en train d'être dynamités.
L'intersyndicale a déjà prévu une journée blanche sans train le 14 mai qui viendra s'ajouter aux autres journées de grève prévues jusqu'au 28 juin.
Hakim Kasmi, et les prévisions de circulation pour demain, un TGV sur deux, un Transilien sur deux, deux TER sur cinq et un Intercité sur trois. Et puisque le gouvernement s'est délocalisé dans le Cher pour être théoriquement plus proche des citoyens, des cheminots ont tenté à plusieurs reprises d'interpeller Édouard Philippe à différentes étapes de son voyage. Ils ont eu beaucoup de mal, vous pouvez en témoigner, vous y étiez. Stéphane Robert.
Entre Édouard Philippe et les militants de la CGT depuis hier, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il les évite soigneusement, aidé en cela par la gendarmerie.
Ben on était là pour l'interpeller, mais on a été parqués au rond-point, donc comment vous voulez qu'on l'interpelle ?
Quoi qu'il en soit, les contestataires n'attendaient pas grand-chose d'une éventuelle rencontre avec le Premier ministre, Nicolas Lepin, secrétaire général de la CGT du Cher.
Pas grand-chose, on ne croit plus au Père Noël depuis longtemps. Mais nous avons une lutte à mener. Nous, le salarié, nous représentons ceux qui créent la richesse. C'est nous le sang de la société et non pas une minorité de gens qui, au lieu de travailler pour l'intérêt général, travaillent en général pour leurs intérêts.
Finalement, conscient que cette tactique de l'évitement systématique commençait à devenir un peu gênante, le Premier ministre a accepté de rencontrer trois représentants.
Ce qui nous a permis d'évoquer rapidement, dans une ambiance à la fois très calme et très respectueuse, mais en même temps très directe, les positions qu'ils défendent, les positions que défend le gouvernement et l'ensemble du travail qui nous reste à faire.
Édouard Philippe n'en a pas dit plus sur la nature de cet échange, sans doute parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire selon ses interlocuteurs.
Le Premier ministre nous a écoutés, voilà, oui, tout à fait, sur le constat, mais après on n'a aucune réponse concrète. Il a entendu les critiques qu'on pouvait faire sur toutes les annonces gouvernementales depuis un an. Il a entendu, mais aucune réponse sur une inflexion, droit dans les bottes, on continue quoi. Voilà, c'est un peu le message qu'il nous a fait passer.
Droit dans ses bottes, Édouard Philippe, comme son mentor Alain Juppé. La différence avec 1995, c'est que la contestation syndicale aujourd'hui ne semble pas rencontrer l'adhésion d'une majorité de la population française.
En ce qui concerne la grève à Air France, 75% des vols devraient être maintenus demain. La mobilisation contre la réforme de l'accès à la fac se propage à l'école normale supérieure. À l'issue d'un colloque organisé hier dans la prestigieuse école de la rue d'Ulm à Paris, quelques dizaines de personnes ont refusé de quitter l'établissement. Il y a eu des dégâts importants au cours de la nuit selon la direction et l'ENS est fermé aujourd'hui. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
La direction a demandé aux occupants d'évacuer les lieux et des CRS sont sur place.
Oui, on en est là. À l'heure où l'on se parle, les occupants du site sont réunis en assemblée générale pour décider de la réponse à donner à ce qu'ils qualifient d'ultimatum posé par la direction. Ils doivent avoir quitté les lieux avant la fin de la journée. Sinon, pas plus de précision, mais on le rappelle, près de 200 policiers et CRS se tiennent prêts et bouclent les accès tout autour du site depuis ce matin. Alors que demandait la quarantaine de personnes qui sont enfermées à l'intérieur, eh bien, de pouvoir prolonger les débats et la mobilisation née du colloque intempestif organisé hier, intitulé « Mort de l'université vie du savoir », nous explique cet ancien étudiant de l'ENS proche des occupants.
Il s'agissait d'avoir l'accès à une salle de discussion, à une salle pour dormir, à un espace pour faire de la cuisine et à la cour, plus d'avoir en fait l'ouverture des accès à l'école, donc qui était bouclée par la présence d'un important dispositif policier pour permettre à une assemblée générale en fait de l'école de se tenir dans la foulée des événements d'hier et pour que quelque chose comme voilà le début d'une organisation en fait de l'occupation puisse se produire.
Oui, mais voilà, la direction a refusé. C'était prévisible de voir son établissement transformé en laboratoire d'idées plus ou moins révolutionnaires. D'autant que pour Amélie, étudiante en première année qui vit sur place et qui continue donc à avoir accès au site malgré le blocus, eh bien le côté stimulant de l'occupation au niveau intellectuel s'est rapidement estompé dès hier soir.
Je pense qu'une personne sur dix, c'était l'ENS et c'était surtout des gens comme moi qui venaient regarder, discuter. Il y a eu des discussions très intéressantes. Il y a des profs de fac, de Nanterre. Enfin, j'étais contente d'être là hier soir parce que...
C'est comme ça qu'ils présentaient un peu les choses dans le communiqué annonçant l'occupation. C'était l'idée de faire un espèce de laboratoire de réflexion et d'action.
C'était pas ça, c'était une grosse fête. Enfin, justement, le prof de Nanterre me disait qu'il était très déçu parce que c'était un blocus raté, que ça se terminait en une espèce d'énorme fête dans la cour. Et c'était clairement ça hier.
Voilà, sur place, l'Assemblée Générale se poursuit. Pas de position commune pour l'instant entre les occupants de l'ENS, sauf à dénoncer le chantage exercé sur eux par la direction. Plusieurs des occupants qui sont extérieurs à l'école semblent craindre, en cas de sortie pacifique, des interpellations, une instrumentalisation politique qui, selon eux, les a très rapidement dépassés.
Et Sciences Po Toulouse est également occupée depuis ce matin. Après l'Australie, Emmanuel Macron est arrivé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Cette première visite du président intervient à 6 mois du référendum sur l'indépendance de l'île, un territoire où cohabitent toujours Kanak et Caldoche, deux communautés dont l'harmonie est encore très fragile, Louise Baudet.
Il y a d'un côté une Calédonie clivée, celle de Ghislain Santacross par exemple, petit-fils de bagnard corse, pur caldoche qui a tout perdu lors de la restitution des terres aux Kanaks dans les années 80. Cet éleveur de bétail redevenu prospère porte le chapeau de cow-boy et la France en bandoulière.
On est fiers d'être français quand même. T'as vu mon drapeau, il est là constamment. Hein. Ils sont en train de nous bouffer à petit feu.
Les Kanaks ?
Ah, les Kanaks, les machins, ils sont en train de nous bouffer à petit feu.
Changement de décor. Dans la tribu de Gossana à Ouvéa, c'est l'État français qui est au mieux suspect.
Nous, notre ennemi, c'est l'État français. C'est l'État colonisateur, comme on dit.
Pour Benoît Tangopi, Kanak rescapé de la grotte d'Ouvéa, ni le président français, ni le référendum de novembre ne sont les bienvenus.
Non, je vote pas. C'est une nouvelle stratégie de nous coloniser et de dire non à l'indépendance Kanak socialiste.
L'indépendance, pas automatique pour Marie, 20 ans, d'origine Kanak.
Moi, je suis pas trop pour l'indépendance. Je sais pas, ça me fait peur un peu le changement.
Kanak, caldoche, indépendantiste, loyaliste, clivage politique et ethnique qui ne doivent pas faire oublier la question économique, prévient Didier Guénan-Janson, figure du syndicalisme calédonien.
Vous vous promenez dans Nouméa un week-end et vous voyez une voiture à 15-20 millions et un bateau à 30 millions derrière. C'est courant. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens au bord de la route aujourd'hui qui n'ont rien.
En Nouvelle-Calédonie, le PIB par habitant est équivalent à celui de l'Alsace et le nombre d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté est 2 fois plus élevé qu'en métropole.
Samedi, Emmanuel Macron doit se rendre sur l'île d'Ouvéa où 4 gendarmes et 19 indépendantistes ont été tués il y a 30 ans. Les violences culminant avec l'assaut de la grotte d'Ouvéa le 5 mai 1988. Pas question pour l'Iran de renégocier l'accord de 2015 sur le nucléaire. Alors que l'ultimatum lancé par le président américain approche, il expire dans 9 jours, Téhéran prévient que l'accord ne sera ni renégocié, ni amendé. Et dans une métaphore immobilière, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, explique « Quand vous achetez une maison et que vous y installez votre famille ou que vous la démolissez pour construire un gratte-ciel, vous ne pouvez pas revenir 2 ans plus tard pour renégocier le prix ». Donald Trump a plus de succès avec la Corée du Nord, dont il doit rencontrer prochainement le leader Kim Jong-un. La Corée du Nord a annoncé la semaine dernière qu'elle procéderait dans le mois à la fermeture de son site nucléaire. Élise Delève, vous revenez justement de ce pays très fermé où peu de journalistes étrangers ont l'occasion de se rendre. Au cours de votre séjour, vous avez constaté que la famille des Kim est vraiment omniprésente.
Les 3 Kim qui se sont succédés à la tête du pays depuis 1945 sont présents dans toutes les facettes de la vie des Nord-Coréens. L'image des dirigeants et même sur les vêtements des habitants. Ils sont obligés de porter un badge. En ce moment, il est en forme de drapeau rouge. On y voit Kim Il-sung et Kim Jong-il, le père et le grand-père de Kim Jong-un. Dans la ville, sur tous les bâtiments publics, toujours la même image des 2 Kim. On voit leurs portraits souriants, regardant vers le même horizon. Au travail aussi, l'image des leaders est affichée en grand. Il faut montrer aux Nord-Coréens ce que les dirigeants ont fait pour améliorer leur quotidien. Dans chaque lieu visité, une guide est chargée de m'expliquer les conseils donnés par les leaders.
Voici la salle des études révolutionnaires. Vous y trouvez toutes les photos qui montrent les exploits immortels de nos grands dirigeants.
On apprend par exemple que dans cette usine, Kim Jong-un est venu en 2015. Il a alors demandé à ce qu'on jette toutes les machines américaines et qu'on les remplace par des machines nord-coréennes. Parfois, il donne aussi son avis sur la hauteur des plafonds ou sur la couleur des murs.
Les 3 Kim sont aussi présents à l'école, Élise ?
Ici, pas de comptine. Toutes les chansons que les enfants apprennent à l'école évoquent la grandeur du pays ou les Kim. Vous entendez un garçon d'une école très réputée de Pyongyang, il chante. La première chanson que j'ai apprise quand je suis née, c'est la chanson de Kim Il-sung. J'ai grandi en chantant cette chanson, je la chante quand je vais à l'école et à la maison. Il y a beaucoup de chansons dans le monde, mais je n'en connais pas de meilleure que celle-ci.
Il y a surtout un culte autour de la personnalité du fondateur du régime.
Oui, Kim Il-sung. Mon traducteur et son chef m'emmènent visiter sa maison d'enfance, une petite maison sur une colline fleurie. Il y a des dizaines de milliers de visiteurs. Ils marchent tranquillement en rang, sans éclat de voix. C'est l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, me dit-on. Pendant un mois, tout le peuple vient se recueillir. À côté de la maison, des gens s'agitent autour d'un puits.
Cette eau est très bonne parce qu'elle vient de l'endroit où notre grand leader Kim Il-sung est né.
Il me tend une écuelle en bois pour que je goûte. L'eau est âpre, ferreuse, très minéralisée.
Vous dites que les Kim sont présents dans chaque facette de la vie des Nord-Coréens. C'est aussi vrai pour les loisirs ?
Oui, et surtout Kim Jong-un, l'actuel dirigeant. Depuis 2010, il a fait construire de nombreux lieux de loisirs. Pendant ma visite, j'ai vu un zoo, une fête foraine, un cirque, un dolphinarium. Tout avait été rénové ou construit au début des années 2010. Cette politique de l'amusement est un excellent outil de propagande pour s'attirer le soutien de la population. C'est aussi un moyen de satisfaire un peuple qui a subi une très grande famine il y a quelques années.
Merci Élise Delève, de retour de Corée du Nord. Et vous avez également réalisé un dossier multimédia qui rend compte de votre plongée dans le quotidien des Nord-Coréens. Il est en ligne sur le site de France Info. On peut aussi y accéder via la page de ce journal. L'ETA n'existe plus. Dans une déclaration finale, le mouvement séparatiste a officiellement confirmé son démantèlement cet après-midi. Mais le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, prévient que les anciens militants de l'organisation clandestine ne doivent pas espérer l'impunité. La plus grande banque d'Australie, la Commonwealth Bank, reconnaît avoir perdu les données financières de 20 millions de clients. Nom, adresse, numéro de compte et détails des transactions faites entre 2000 et 2016 étaient stockés sur des supports physiques. Ces données devaient être détruites, mais personne ne sait ce qu'elles sont réellement devenues. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
C'est en 2016 en fait que la banque a découvert la perte de ce stock gigantesque de données, mais elle s'était bien gardée de prévenir ses clients.
Oui, alors on parle là, comme vous l'avez dit, bien de données qui étaient stockées sur des bandes magnétiques. On n'est donc pas dans un stockage virtuel, mais physique. Ces bandes auraient dû être détruites par un sous-traitant, mais ce dernier n'a pas pu fournir la preuve que cette destruction avait bien eu lieu. La Commonwealth Bank s'en est aperçue en 2016. Elle a alors fait appel à des consultants pour enquêter, mais eux non plus n'ont rien trouvé. Est-ce un vol ? Est-ce que les bandes sont tombées du camion qui les amenait sur leur lieu de destruction ? Tout a été imaginé, mais jamais les bandes n'ont été retrouvées. Pour autant, la Commonwealth Bank n'a pas alerté ses clients. Si elle le fait aujourd'hui, c'est en réaction à des révélations parues dans la presse. Dans un communiqué, elle s'excuse et explique qu'elle n'était pas la seule à opter pour le secret, puisqu'elle avait prévenu dès 2016 le régulateur australien qui correspond à la CNIL en France et les autorités de régulation bancaire australienne, et que ces deux régulateurs ont eux aussi jugé que la nouvelle n'avait pas à être divulguée, au prétexte que le risque que les données soient mal utilisées était très bas. Voilà donc qui jette le discrédit non seulement sur la banque, mais aussi sur ses autorités de régulation australiennes, et nous rappelle que sur ces questions de données personnelles, la vigilance personnelle vaut mieux que la confiance. Les clients dont les données ont été perdues auraient clairement eu intérêt à le savoir pour être sur leur garde, car quand un stock aussi massif de données se retrouve dans la nature, beaucoup d'arnaques sont possibles et encore possible aujourd'hui.
Merci Marie Viennot. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, une pensée pour les 24 journalistes tués depuis le début de l'année. Et comme le chef photographe de l'AFP à Kaboul, Shah Maraï, tué lundi dans un attentat visant la presse, les photojournalistes sont souvent en première ligne. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Malgré la précarité croissante, de plus en plus de jeunes se tournent vers le photojournalisme.
Tout le monde n'est pas photographe. Tout le monde fait des photographies, mais personne ne raconte vraiment. Être photographe, c'est avoir un sens de la narration qui permet de vraiment raconter une histoire, de pas juste montrer. Le photographe ne se contente plus de prendre des images. Il faut aussi analyser en profondeur.
Vous entendez Corentin Follen, 36 ans. Il fait partie, oui, de cette nouvelle garde de photoreporters qui a pris de plein fouet la transition numérique avec son flot d'images et en même temps la crise de la presse qui préfère aujourd'hui faire appel à une main-d'œuvre locale, notamment à l'étranger, locale car moins chère. Paradoxalement, le nombre de photographes a presque doublé en 10 ans en France. Alors, pour faire face à cette concurrence, eh bien, il a tout simplement fallu se réinventer, explique Corentin.
Depuis 2010, je travaille sur Haïti. Donc 2010, c'était le tremblement de terre. Et énormément de médias en ont parlé, mais toujours d'un point de vue plutôt catastrophique et misérabiliste. À partir de 2012, j'ai commencé un projet de long terme, en revenant plusieurs fois par an sur place, en mettant totalement de côté ce pays pauvre, ce pays soi-disant maudit, et au contraire de montrer l'énergie des Haïtiens, montrer la créativité de la culture haïtienne, montrer aussi des richesses, la bourgeoisie, raconter la complexité de ce pays. Bien sûr, c'est un coût, hein, j'ai payé tous mes séjours, mais j'ai pu aller voir ce que, au premier abord, on peut pas voir en deux semaines en Haïti. C'est ce qui, paradoxalement, a intéressé les journaux.
Alors depuis, Corentin vit exclusivement de son métier de photoreporter, qu'il sait d'ailleurs mettre en valeur sur les réseaux sociaux lors de notre entretien. Là, ce matin, place de la République à Paris, un cycliste s'est même arrêté devant nous pour le féliciter des photos qu'il poste sur Internet. Parce qu'être photojournaliste aujourd'hui, Aurélie, c'est savoir ou avoir intégré finalement l'ubérisation de la profession. Ainsi, en France, ils sont officiellement un peu plus de 800 à avoir une carte de presse, mais près de 2000 à exercer ce métier, un métier parmi d'autres, analyse l'économiste de la culture, Domic Sagot-Duvauroux. Il est professeur à l'Université d'Angers.
Il y a beaucoup moins de salariés qu'il n'y en avait il y a 30 ans et ils sont remplacés par des auto-entrepreneurs, des photographes auteurs qui sont amenés à diversifier leurs sources de revenus sur l'ensemble des marchés de la photographie. La concurrence étant très forte, il y a une pression à faire des photographies qui se vendent, donc un peu sensationnelles, et ça crée sans doute un phénomène de formatage. Je suis pas sur un conflit armé, c'est plus facile de vendre une image où on voit des morts, des blessés, de l'action plutôt que des images qui vont analyser de façon plus indirecte les conséquences de ce conflit.
D'où l'appel lancé notamment en 2015 par les sociétés d'auteurs comme la SCAM pour forcer la presse à maintenir leurs commandes et à employer des journalistes photoreporters professionnels. De nouveaux médias comme Les Jours ou la revue 21 sont nés de ce point de vue et surtout depuis une quinzaine d'années, les photojournalistes se sont organisés. Pierre Morel, photographe de 30 ans par exemple, parvient à vivre correctement de son métier parce qu'il travaille pour des entreprises privées, c'est vrai, et pour la presse, mais via une association.
Divergence Images, c'est une association de photographes principalement français qui travaillent pour la presse, qui regroupe aujourd'hui 108 photographes. C'est une plateforme, on va dire, mutualiste qui nous permet de revendre nos reportages et nos images. On récupère 100% du montant de la vente de nos images. Et puis après, on a quelque chose qui est très important pour être un bon professionnel, c'est qu'on mutualise l'information. C'est-à-dire qu'on a un forum de discussion interne où on va échanger sur les tarifs, sur les pratiques professionnelles, sur les contacts. Et ça, c'est un des grands enjeux pour les photographes professionnels. C'est être en capacité de faire collectif parce que même si c'est un milieu dont on peut vivre aujourd'hui, les places sont extrêmement chères et il y a quand même beaucoup de turnover.
Et ça, c'est particulièrement vrai pour les femmes. Et c'est l'aspect d'ailleurs qui ne change pas dans ce métier de photoreporter. Si nombreuses en formation, les femmes ne représentent que 20% des photoreporters professionnels. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour elles, la maternité veut dire la fin de la carrière.
Merci Cécile de Kervas-Doué sur franceculture.fr. Vous trouverez un article sur la situation des journalistes afghans. Le temps sera nuageux au sud demain avec des orages en Méditerranée. Le soleil s'imposera sur la moitié nord. Le matin, les températures s'échelonneront de 3 à 14 degrés. L'après-midi, il fera 13 à 15 près de la Manche et près des Pyrénées, 16 à 24 sur la plupart des régions. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.